France Inter.
J'entends tout, tout. Des côtés.
Club. Club.
Go, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir Marion Guilbeault.
Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
Lundi 8 avril, vous êtes en direct au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques. C'est Côté Club, le rendez-vous quotidien de toute la scène française et plus si affinité. 22h, 23h à podcaster, télécharger, réécouter. Bref, tout est bon pour remettre le son ce soir avec nos deux invités, Chloé Delhomme et Emel. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
C'était collégial, c'était magnifique. Chloé Delhomme joue coup double avec un roman violent et drôle comme une farce, Falerce, et un album qui en serait la BO, Sentiment négatif. Le programme est clair. Parce qu'un viol toutes les 7 minutes vient le temps d'un membre qu'on ampute. Nous sommes les yeux de la colère, sororité, ni fille ni mère. L'impunité des prédateurs ne s'achève qu'avec leur douleur. Dont acte, les phallus vont imploser. Pour Emel, c'est le temps du cinquième album. La voix de la révolution du jasmin s'élève à nouveau dans Mra, femme en dialecte tunisien. Avec cet album pensé, écrit, produit par et avec des femmes, un album de renaissance après la déconstruction. Marion Guilbeault.
Acte 1 des nouveautés nouvelles avec une revenante, une pop chamanique du yéyé rétro-futuriste. 3 sons féminins, 3 sons à découvrir vers 22h30.
Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et on a fait tout bien comme elle nous a dit, Chloé Delhomme. Choix playlist de Chloé Delhomme, Pinata de Gwendoline. Un mot sur ce titre que vous avez absolument voulu.
C'est ce groupe est vraiment la révélation. C'est leur deuxième album. Déjà, le premier, c'était une tuerie. C'est excessivement politique, c'est excessivement dur, drôle. La musique est super. Enfin, c'est mes chouchous.
Sur France Inter.
Te souviens-tu de cette histoire? Il était tôt, il était tard. Pizza, du sepac de cesse. Whisky, coca, comme à la messe. Tu dansais la macarena, la tête. Qui t'ont pris pour une piñata. Fallait pas sortir ce soir-là. Fallait pas sortir avec toi. Capuche noire dans les rues sombres. Coup de schlasse et là tu tombes. Ils étaient trop nombreux pour toi. Fallait pas sortir ce soir-là. Fallait pas sortir ce soir-là. Fallait pas sortir avec toi. Fallait pas sortir ce soir-là.
Chloé Delhomme et Emel sont les invités côté club ce soir. Chloé Delhomme qui connaît son piñata sur le bout des doigts. Vous avez presque tout chanté.
Oui.
On aurait dit un karaoké géant.
N'est-ce pas?
Exactement. Je ne sais pas si vous vous connaissez toutes les deux, alors même que vous avez des positions et des combats communs. Vous vous connaissez?
On s'est rencontrés il y a quelques instants. Et ça s'est bien passé.
Vous avez déjà évoqué des sujets ? Vous avez déjà parlé de quelque chose, toutes les deux ?
On a parlé un petit peu de nos origines, de musique et de féminisme.
Eh bien, on va faire plus amplement connaissance. On a une heure pour cela. Combat et position féministe, donc pour vous deux. Chloé Delhomme, écrivaine, performeuse, musicienne, chanteuse. Un parcours littéraire qui commence au début des années 2000. Une production au départ au bord de l'autofiction. Position militante intersectionnelle. Prix Médicis 2020 pour Le cœur synthétique. Un texte percutant, parodique sur l'invisibilisation des femmes de plus de 50 ans. Ça apparaît encore d'ailleurs dans le nouveau roman à un moment donné. Aujourd'hui, c'est Phalerce, un roman farce de combat féministe. On va y revenir, doublé d'un album, Sentiments négatifs. C'est le deuxième album. On vous avait reçu pour le premier en 2020, Les fabuleuses mésaventures d'une héroïne contemporaine. On y entendait ce son marqué par les 80s.
Elle a eu son week-end à Rome, toutes les ruelles à arpenter. Elle n'y a rencontré personne qui lui dise Reviens cet été. Elle rêvait d'un week-end à Rome, mais elle est seule et sous lithium. Elle rêvait d'un week-end à Rome.
C'était votre week-end à Rome à vous.
Version loose.
Version loose, pas la version enchantée d'Étienne
de Dao.
Repris quelquefois par Lio. Et j'avais dit à l'époque que vous aviez quelque chose dans la voix qui ressemblait à Lio.
Oui, je ne fais pas exprès, mais non, je crois mais ça qu'il y a une... Oui, ça ressemble des fois.
Ce son 80s, on le retrouve dans l'album Sentiments négatifs, on l'écoutera tout à l'heure. Un peu New Wave, Post, Élie Jacquenot. Vous êtes très marqué en fait musicalement par cette période.
Ah, moi je suis dans du formol des années 80. Ouais. C'est ce que je préfère, les synthés, la basse, tout ça.
Vous chantiez déjà à cette époque ?
Je chantais dans ma chambre.
Ouais, vous chantiez qui ?
Bah, je chantais Lio, Élie Jacquenot, le mood board de premier album, en fait.
Vous l'avez rencontré, Lio ?
Non, je ne l'ai jamais croisé.
Parce que vous avez des positions qui sont semblables.
Oui, c'est vrai, mais je sors peu, en fait, à part chez mes amis qui ne connaissent pas Lio, alors du coup, c'est compliqué.
On vous la présentera une fois,
c'est
à l'occasion.
Avec plaisir.
Emel, c'est le quatrième album, cinquième album. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était aussi en 2020, pour un double album, Tunis Diaries, à la fois vos chansons et des reprises de Nirvana, Bowie, Black Sabbath, Placebo... Et vous étiez venu chanter en live ce titre. Ce live ici au studio 621 de 2020.
C'est fou, hein,
ben,
je me rends compte que l'interprétation elle est différente parce que c'est un titre qui m'accompagne. Quand
exactement,
même.
Qui revient dans votre parcours très régulièrement.
Voilà.
Ouais. Mais en 2020, c'était une des premières fois que
c'était
vous l'aviez chanté.
Ouais,
c'était frais,
tout
oui.
Frais. Donc j'entends le truc un peu libre, quoi.
De l'époque. Peut-être que vous pourriez recontextualiser ce titre qui a été vu. Plus de 3 millions de fois sur YouTube en 2021, c'est-à-dire 7 mois après sa première diffusion. Qu'est-ce que racontait ce titre et en quoi il a été emblématique dans votre parcours ?
Mais c'est fou, des fois il y a des choses qui arrivent comme ça. Moi je ne suis pas vraiment quelqu'un qui fait des trucs viraux, donc en fait, pendant le Covid, en fait, à la base, c'est une chanson qui figure dans un film iranien qui parle d'amour. Et du coup, je suis tombée amoureuse de l'interprétation de, je sais plus qui l'avait fait. Et j'ai décidé d'écrire quelque chose en arabe. Et du coup, pendant le Covid, ça s'est transformé comme un un peu une complainte de la souffrance humaine, quoi, de ce qu'on voit, des visages assombris, des gens courbés par le malheur et l'oppression. Et à côté, il y a le contraste avec la volonté de s'élever au-dessus de tout ça et puis de construire des rêves et de l'espoir et d'effacer en fait toutes les peines. Et je l'ai fait, j'avais fait, je crois, une vidéo sur Twitter et en 24 heures, ça avait fait 150 000 visionnages. Et je me suis dit, bah tiens, je devrais enregistrer ça. Et du coup, j'ai enregistré ça à la maison et au-dessus, enfin, sur le toit de chez moi.
Vous habitiez où à l'époque ?
Mais à ce moment-là, j'ai passé quelques mois à Tunis. Et donc, avec mon téléphone, je me suis filmée juste avant le coucher de soleil. Juste avant l'appel d'après-hier, donc j'avais vraiment 10 minutes. Et j'ai balancé, et après ça a fait tellement de vues, et je pense que c'est un peu le mélange, quoi, de la mélancolie avec l'espoir, peut-être, qui fait que ça touche.
Il y a une résonance politique, on en parlera tout à l'heure aussi avec ce titre. Je vous ai demandé vos titres déclencheurs, Emel. Le premier. Quelle est cette voix, Emel ?
C'est Shirimem, donc le compositeur et chanteur égyptien qui est aujourd'hui décédé. Et c'est quelqu'un en fait dont on avait le vinyle à la maison. Donc il y avait la musique classique d'un côté, puis il y avait le vinyle de Shirimem. Donc j'ai été initiée à sa musique très jeune, et du coup à la musique politique très jeune. Et je me rappelle que même si, avec l'innocence de vraiment les toutes premières années, son chant me donnait vraiment beaucoup de force, et c'était profond. Mais en même temps, ça me donnait des ailes, en fait. Et je me suis dit, si je peux provoquer quelque chose comme ça avec ma musique, et c'est pour ça que c'est le déclencheur. Parce que non seulement j'avais envie de chanter, j'avais envie de faire de la musique, mais je pense que c'est avec ça que je me suis rendu compte que je pouvais faire beaucoup plus que ça. Que je pouvais vraiment soulever.
C'est ce que vous avez fait quelques années plus tard. On en parlera lors de la révolution de Jasmin. Le titre déclencheur, le deuxième, on l'écoutera tout à l'heure. C'est un teaser pour la suite de l'émission. Chloé Delhomme, nouveau roman Falaise, nouvel album Sentiments Négatifs. On écoute Ouin Ouin Boogie, le titre d'ouverture de l'album. Ça donne quelle piste de lecture ? De commencer par Ouin Ouin Boogie.
Bah, ça montre qu'on est un petit peu énervé en ce moment.
Tout à fait.
On va dire.
On va dire ça comme ça.
Thank you. faire des études, ce que vous voulez. L'égalité est déjà là, c'est juste vous qui n'assurez pas. Toutes vos histoires de charge mentale, d'inégalité salariale, de grandes invisibilisées, c'est un truc pour vous rassurer. Il m'a dit le patriarcat, ma petite, ça n'existe pas. Prenons du recul un instant, ici on n'est pas en Iran. Je lui ai rappelé un pouvoir qu'on a depuis la préhistoire. Il en petit et grand garçon, le fantasme de castration. Il m'a dit, le patriarcat, ma petite, ça n'existe pas. Il m'a dit, le patriarcat, ma petite, ça n'existe pas.
Ce il, c'est Philippe Solers, Chloé Delhomme.
Le patriarcat n'existe pas en Occident, c'est une phrase d'Emmanuel Todd. Ça existe. Non, toutes les citations de cette chanson, je les ai entendues,
je les ai
prises en note.
Vous avez compris la chanson, Emel, vous avez vu la dimension parodique, elle était frayée. Oui, c'est ce qu'on peut entendre ici.
Je suis complètement d'accord et je suis complètement touchée par sa manière d'avoir tout mis ensemble. C'est super touchant, c'est...
Et puis tout y est, hein. Tout est discours.
Tant qu'à faire.
Ouin Ouin Boogie, extrait de Sentiments Négatifs, c'est le deuxième album de Chloé Delhomme, un des titres de la BO de ce nouveau roman Falerce, un roman farce, donc violent, donc très drôle, de combat féministe. On y suit Violette, elle a 17 ans, elle vient de se faire harceler dans la rue, elle a connu la violence sexuelle chez elle, l'inceste, et se trouve accueillie dans une maison où vivent une vingtaine de jeunes filles et de femmes de tous âges. Pantalon blanc, au mauve, il y a des livres, Scum Manifesto de Valérie Solanas, qui avait tiré sur Andy Warhol, Un lieu à soi de Virginia Woolf, Les guerrières de Monique Wittig, Opération Quick Quick de Clotilde de Mélis, ça vous l'avez inventé, mais ça donne envie, ça donne envie de le lire. Il y a aussi de la musique, je vous laisse lire.
Les enceintes diffusent une musique aux accents pop et électro que Violette trouve plaisante, mais qu'elle ne connaît pas. Des voix féminines, juvéniles, se partagent le couplet. Une fois ficelé comme un rôti, tu te souviens de tes samedis, quand tu organisais ces fêtes, où ça tournait sur la banquette, la testostérone, t'es gentil, n'excuse pas les viols en série. Dans ma main, j'ai bien une fourchette, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Puis les voix reprennent en chœur énergiquement le refrain « Balancez-moi ce porc avec tout son crew, ou, il ne mérite pour sort que le barbecue ». Vraiment, Violette, ça ne lui dit rien. Le morceau vient sûrement de sortir.
Le morceau, c'est peut-être celui du gang des Falers.
C'est une légende, plutôt urbaine, qui parle d'un gang de filles et de vingtaine. Elle traque jour et nuit les prédateurs, ceux dont les crimes restent impunis. Ceux qui sont des serial violeurs.
Les Falers, c'est le nom de ces Amazones. Les Falers ont cette capacité de faire imploser les phallus. On peut dire que c'est un don.
Oui, c'est un don qui vient. On ne sait pas si c'est l'ADN qui a muté à force qu'on soit agressé, on se défend. Ou si c'est Némésis, Lilith ou Hera qui sont de la partie. Ou peut-être les extraterrestres.
Quel a été le déclencheur d'un tel livre ?
J'avais l'idée de faire un court-métrage où il y avait ce pouvoir et puis aucun guichet n'a voulu me donner les sous.
Il fallait des effets spéciaux.
Il fallait des effets spéciaux, mes plateaux. On va essayer de faire un clip sur Ouin Ouin Boogie où les Falers s'agiraient, on va voir.
Alors face, bien sûr, à ces falaises, il y a Charles, il a 67 ans, il en paraît beaucoup plus. C'est pas très gentil de se moquer du physique des gens, Chloé Delhomme. Il a fondé le club des Virilitas, je vais lire. Il a fondé le club des Virilitas il y a quelques années, quand sa femme l'a quitté, non pas pour un autre homme, mais pour vivre sa vie, sous l'impulsion coupable de féminisme ambiant. Charles n'en était pas à son premier dommage. Depuis MeToo, les emmerdes, c'était une déferlante. Ses anciennes assistantes lui envoyaient des avocats, ses ex-maîtresses des plaintes et la facture de leur psychanalyste, ses employés de maison refusaient ses avances. L'une d'elles avait été jusqu'à oser le gifler. Charles se dit saturé par les mots « respect ». Limite. Il ne peut s'exprimer librement sans être traité de mâle blanc bourgeois de plus de 50 ans et ne sait que faire de ses deux mains en présence d'une femelle. À quoi bon le pouvoir si ce n'est pas pour en jouir ? Non, vraiment, le féminisme, Charles, l'a plus que mauvaise. Et le sort s'acharnant, sa fille unique est devenue végane. Son gendre, une vraie carpette à force d'écouter des podcasts de propagande wokiste, épousant le discours de ces hordes de folles soutenues par des faillots eunuques, portant comme une croix la culpabilité d'être privilégiée, se permettant de tourner le bouton de la radio afin de censurer Africa de Rose Lawrence qui passe sur Nostalgie. Tout y est, et ça, c'est vraiment, ça donne tout le sens de ce roman. Vous auriez pu choisir un autre ton, c'est-à-dire écrire un roman, comme vous l'avez déjà fait, avec toutes les inventions verbales qui sont encore présentes. Vous auriez pu écrire un essai. Pourquoi avoir choisi cette forme drôlatique ?
Mais parce qu'on a essayé les essais.
Et ça marche pas ?
On a un viol toutes les 7 minutes, Laurent, donc ça marche pas. Non, il n'y a rien qui marche. Donc je me suis dit que peut-être la blagounette outrancière était une solution, ne serait-ce que pour dédramatiser, pour l'effet cathartique. Donc, j'ai vraiment choisi ça d'entrée de jeu. On ne sait plus quoi faire. En fait, le bandeau du livre est un extrait de la chanson Falleur, c'est pour que les hommes cessent de violer, on ne sait plus quoi inventer. Donc, j'ai essayé la blague, on verra bien.
Un roman doublé de chansons comme Les Myosotis pour Sarah Kane.
Je suis celle qui te voit, contempler ta douleur. Viens, oui, avance vers moi, en robe couleur de peur. Je suis celle qui sourit quand se dessèchent les roses. Je suis tant que mes noms sont légion et psychose, qui s'avère incapable d'apaiser la tension.
Depuis longtemps mon âme est par elle en lambeaux. Les divans en témoignent, profonds comme des tombeaux. J'assassine sa voix, étranglée de cachet. Dans mes larmes je la noie, mais toujours elle renaît. Je voudrais qu'elle s'efface comme la craie sous la pluie. Mais dans mon crâne la garce croît et se mûle.
Quelle est la voix avec qui vous chantez en duo sur cette chanson ?
C'est la jeune chanteuse Henriette, qui est un petit génie que j'adore.
Qu'on a invité ici, ouais.
Et il faut quand même que je salue au passage mes musiciens, Patrick Bouvet et Eric Elvis Simonet, qui m'ont fait encore, comme pour le premier disque, un travail au cordeau.
Justement, quel est le lien entre cet album et le roman ? Quel était le premier ?
Alors, j'étais en train d'écrire le livre. On a décidé de repartir sur un disque et je me suis rendu compte que je voulais que les filles, elles chantent dans le livre. Donc du coup, j'ai demandé aux garçons cette fois-ci de me faire la musique avant. Parce que la dernière fois, c'était les paroles en premier. Et du coup, il y a des musiques qui correspondaient très bien au mood des Falleurs. Ça s'est fait assez naturellement et très vite surtout.
Est-ce qu'il y aura un développement scénique ?
Il y a une performance qui aura lieu le 27 avril à la Ménagerie de Verre.
À Paris, oui.
À Paris,
dans le 11e arrondissement, rue Léchevin.
Rue Léchevin. Et après, peut-être que la perf va tourner, on verra.
Une performance, c'est-à-dire ça consiste en quoi ?
C'est une lecture musicale, je dis performance, mais j'exagère.
Comme toujours. Sur cet album, il y a un bonus qui, a priori, n'a absolument rien à voir avec le reste de l'album, mais ça ne pouvait pas passer inaperçu pour vous comme moi qui adorons cette période. Anne, cherchez l'amour.
Je n'ai eu
Que fait cette reprise d'une chanson de Jacquenot dans cet album?
C'est Sylvie Astier du label Doki Doki qui est venue à la maison et je lui ai montré, j'avais récupéré un vieux disque dur, cette chanson, cette reprise à 12 ans. Et elle l'a trouvée trop mignonne, elle m'a dit « Oh, il faut la mettre ».
Vous aviez 12 ans quand vous chantiez?
Non, c'était il y a 12 ans.
Ah, c'était il y a 12 ans, c'est pas possible.
Non, non, et puis surtout, j'aurais jamais eu de quoi enregistrer avec des points midi quand j'avais 12 ans. Non, non, c'est oui, il y a 12 ans, j'avais fait ça un soir de déprime toute seule et je l'avais conservé et on a retrouvé le web et voilà.
Quels sont les combats à mener aujourd'hui? Parmi tous ceux, quelles sont les priorités d'après vous?
La priorité, c'est vraiment pour moi une question patriarcale. Ouais. Vraiment,
c'est-à-dire
très sérieusement, il faut faire tomber les bastions. Et là, l'urgence en France, c'est l'impunité des prédateurs. On ne peut pas avoir autant de mise en examen et de non-lieux. Enfin, c'est plus possible, là. On a quand même des dossiers qui sont énormes. PPDA, c'est toujours pas traité, enfin, pour prendre les plus visibles. Et pour moi, c'est vraiment une urgence parce que symboliquement, c'est pas que symbolique d'ailleurs, mais une fois que ça tombera, je pense que le comportement au quotidien sera différent.
Vous êtes d'accord avec cela, Emel?
Complètement. Moi, je dis c'est pourquoi j'ai fait l'album que j'ai fait. C'est l'urgence. C'est vraiment il faut qu'on bascule en matriarcat pour essayer de corriger un peu. C'est vrai, hein. Pour moi, c'est une priorité et c'est une grande urgence aussi.
Et vous l'avez mis en application dans l'album, dans le mode de production, on va en parler dans quelques instants. Chloé Delhomme, vous restez avec nous, on a rendez-vous avec Emel, avec Marion Guilbeault. Ce sera juste après le Call Me d'Éloi. Je rappelle que le concert France Inter, triple affiche, Éloi, Voyou et Bonnie Banane est toujours disponible à la réécoute. Prochain concert, ce sera mercredi, double affiche, Meryl Lalaes, mais tout de suite, Call Me, Éloi. Emel, Chloé Delhomme, Marion Guilbeault vous a préparé des nouveautés nouvelles, rien que pour vous.
Côté club.
L'album sera prêt quand?
Faut que je prenne deux ou trois chansons.
J'ai une meilleure idée. Je vous fais une compile et je vous l'envoie au bureau.
Sur France Inter.
Et on ouvre ces nouveautés nouvelles sur la pointe de la voix de Natasha Terton. Alors, on oublie le jeu de mots un peu potache, on se concentre sur ses chansons. Natasha Terton, on l'avait identifiée au début des années 2000 comme une héritière de Dominica et de Françoise Breu. On l'avait distinguée parce qu'elle pratiquait, avec son coéquipier Bruno Mathieu, une collision singulière entre des synthés analogiques, des boîtes à rythme un peu asthmatiques et une écriture étrange, une plongée dans l'intime à la limite du grinçant et du bruitisme. Un EP en 1998, un album Le Grand Déballage en 2000, et puis plus rien, plus de son, plus d'image pendant plus de 20 ans. On retrouve Natasha Terton en 2024 avec la réédition de cet unique album et c'est l'occasion de vérifier qu'on ne s'était pas trompé sur son compte, que le charme de ses chansons minimalistes, touchantes, sombre opère toujours.
Une occasion super de changer d'air et d'air, combattre le destin pour décider du mien. Une occasion sans cesse d'effacer toute trace.
Les occasions manquées, Natasha Terton s'est à retrouver sur la réédition de son album Le Grand Déballage, disponible dès le 12 avril sur toutes les plateformes, en attendant et en espérant une suite. Elle sera en concert au Petit Bain à Paris le 10 avril, à Lens le 13 et à Lesquin le 8 juin. Alors ceux et celles qui connaissent cette chronique savent que j'ai un penchant pour la musique répétitive, pour les boucles, pour les mantras, pour la pop psyché qui part en transe. Je ne pouvais donc que m'enticher de la proposition de l'étrangleuse, deux filles, deux garçons, qui écrivent un dialogue amplifié entre une harpe à pédales en érable mouchetée, ça ne s'invente pas, et un Jelly N'Goni en peau de chèvre. Ne me regardez pas comme ça, Laurent. Un Jelly N'Goni en peau de chèvre. Voilà, un dialogue enrichi par les grooves d'un basse-batterie qui pulvérise les codes du post-rock. Et ça fait 15 ans que l'étrangleuse imagine la bande-son, les hymnes, les manifestes d'un autre monde. Un monde gouverné par la poésie, par la conscience que quelque chose doit bouger, un monde de saturation et de percussion. Remède, un des hymnes de l'étrangleuse, soit Mélanie Viraud, Maëlle Salette, Léo Dumont et Anne Godefer. C'est un titre issu de leur nouvel album Ambiance Argile, attendu pour le 7 juin avec un concert, ce sera à Agen, le 27 avril. Enfin, après les boucles répétitives, mon autre passion c'est la réverb. Réverb sur les guitares, réverb sur la voix, j'en mettrai partout, comme chez Junior, le groupe d'Anna Jean, de Soigny Elzingre et de Samy Osta. Junior qui a fêté il y a quelques semaines les 10 ans de sa pop yéyé, une pop rétro-futuriste, capable de laisser la nostalgie de Françoise Hardy planer au-dessus des tempos tendu d'un combo surf, Junior qui revient avec un nouveau titre dans la droite ligne du parti de la réverb, un son familier donc, mais toujours réjouissant, Junior qui nous intime de sortir du silence avec cette question, à quoi tu penses ?
À quoi tu penses ? Tu penses à moi qui pense à toi ? Dans ce silence, est-ce que tu penses parfois ? Quand le vide est si dense, à force de prudence, ça risque de jeter un froid. Est-ce que tu penses sans moins de bois? Quand le crépuscule est immense, que le temps finit pas.
là-bas. C'est vrai que j'ai tendance à penser que ça va de soi. Je me dis tout en nuance. Quand je suis ici et toi là-bas, il y a des chances que tu penses à moi, tu penses à toi. À quoi tu penses? La distance, on s'habituera. Et l'absence, tu crois, et le chacun pour soi. Avant la prochaine séquence, le prochain fait pas. À quoi tu penses?
Le silence est signé Junior, de la Réverb, de la Fuzz, tout ce qu'on aime. Annonciateur d'un nouvel album pour 2024 qui... Et Junior qui sera sur scène le 3 octobre à La Rochelle, le 4 à Rouen, le 5 à Lille, à la Gaîté Lyrique à Paris. Ce sera le 8 et toutes les autres dates sont sur les internets. Les sons des nouveautés nouvelles ce soir dans Côté Club, c'était ceux de Natacha Terton, de L'Étrangleuse, de Junior. Lequel a retenu votre attention, Chloé Delhomme?
Oh bah moi j'ai beaucoup aimé le dernier, la Junior, Junior, ça me plaît bien.
Ouais. Vous êtes aussi une fan de Reverb?
Ouais.
Moi aussi.
Vous aussi. De votre côté, Emel, pareil.
Ah bah, complètement.
Le dernier son.
Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa voix et j'adore la Réverb.
Oh, c'est parfait. Le gang de la Réverb.
Côté.
Il y a même de la musique.
Club.
Ah, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Va danser.
Laurent Goumard.
Chloé Delhomme, Emel sont les invités côté club ce soir. Emel avec son cinquième album depuis 2012. C'était le premier. Mra. Je l'ai bien prononcé?
Oui, oui.
Ça veut dire
ça veut dire femme, tout simplement.
Tout simplement?
Oui, je voulais faire autre chose au début, parce que j'ai une chanson, la chanson qui ouvre l'album s'appelle Massive Will, et je voulais vraiment commencer en force. Je voulais l'appeler Massive, tout simplement. Et après, il y a beaucoup de gens qui ont été curieux de Mra, ces trois lettres. Et puis, je me rappelle, j'étais en Égypte et j'avais comme ça dit, oui, peut-être je l'appellerai Mra. Et je sais qu'il y a des gens, ça leur a pas plu, quoi, parce que c'est un peu un gros mot en Égypte.
Ah bon? Femme est un gros mot en Égypte?
Pas femme, mais Mara, je crois que ça, c'est voilà, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de très super sympa.
D'accord, c'est une femme, mais
oui,
qui ne respecterait
argot, quoi,
pas les codes.
C'est de l'argot. Non, pas forcément. C'est pas forcément, ça n'a rien à voir. C'est pas pour insulter les femmes. Mais c'est un mot qui a été déplacé, du coup, et qui, voilà.
Eh bien, c'est bien de le revendiquer.
Et du coup, je me dis, contre tout ça, je vais l'appeler Mra.
Un album écrit, pensé et produit exclusivement par et avec des femmes. C'est ce que je disais dans la note qui accompagne cet album. Un album que vous aviez voulu déconstruire pour tout reconstruire, se stimuler pour que la musique reste vivante. Mais déconstruire quoi, Emel? Je pose la question à celle qui chante « I will rise again like a phoenix » dans le titre « Rise ». Pourquoi déconstruire de votre côté?
Alors, de mon côté, personnellement, je voulais déconstruire... En fait, parce que quand j'ai commencé avec mon premier album, qui était assez engagé et assez politique et assez révolutionnaire, je trouve qu'on m'a énormément récupéré et surtout, enfin, en Europe, quoi.
Ben oui. Vous avez chanté à la remise du prix Nobel, de la paix.
Oui, non, mais ça, tout ça, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Mais par contre, j'ai trouvé que j'avais pas forcément l'espace pour être moi-même. C'est-à-dire que j'avais le droit d'exister sous une seule facette et une facette unique, celle du politique ou alors de l'exotique, alors que. Enfin, moi, j'ai grandi et j'ai enfin, pour moi, j'ai plusieurs côtés, quoi. Enfin,
vous n'étiez pas simplement la voix de la révolution de Jasmin.
Je suis pas. Enfin, c'est quand même, c'est quelque chose d'énorme d'être la voix d'une révolution. C'est pas ça. Le problème, c'est que je suis aussi une pionnière dans ce que je fais, dans ma composition, dans ma production, voilà. Je trouve que la façon de me définir a été un peu limitée, même si elle a accompagné un grand événement. Et je voulais justement, à chaque album, j'essaye de présenter au monde, voilà, c'est comme ça que je me définis. Mais j'ai trouvé qu'il y a plusieurs façon de se définir qui ne plaisent pas, en fait, et qui ne rentrent pas dans les cases. Et donc, du coup, je voulais déconstruire, en fait, tout ce que... Et puis même par rapport à moi-même, en fait.
Bah oui, parce que quand on vous avait reçu en 2020, vous étiez Emel Matlouti. Le nom, le patronyme a disparu. C'est faire disparaître le père pour vous ?
Ah non !
Bah non, surtout non. pas ! Non, mais je dis
non,
ça parce
mais,
que...
Non, oui et non, en fait, parce que c'est vrai que pourquoi, en fait, il faut avoir le nom de son père, quoi, obligatoirement, déjà d'une part, même si je suis très fière de mon père et...
Vous
et
lui rendez hommage,
d'ailleurs.
Je suis
d'être sa fille, évidemment. Mais moi, voilà, pour moi, c'est vrai qu'on choisit aussi mon prénom, mais Emel, ça veut dire l'espoir, et c'est un prénom que je porte plutôt bien. Et je voulais juste être Emel, être voilà, juste moi.
Un père à qui vous rendez hommage d'ailleurs dans votre album sur une chanson, I Live. Qui était votre père ? Qu'est-ce que vous lui devez en fait ? Alors, qu'il vous a transmis ?
Je lui dois tout simplement mon amour pour la musique et pour la littérature et le fait de ne pas se taire et de s'indigner. Et d'avoir le point tout haut. Et en fait, j'ai été élevée, j'ai été bercée par la musique classique, par Beethoven, par Vivaldi depuis mon plus jeune âge. Et j'ai eu la chance de lire plein de classiques de la littérature depuis mon plus jeune âge. Et je trouve que ça forme quand même de manière assez puissante, en fait. Et surtout, quand j'ai commencé à vouloir être artiste, je trouve que j'avais quand même un bon socle.
Une bonne base. Et votre mère, quel rôle elle a eu dans votre construction ?
Je pense que ma mère, le rôle qu'elle a eu, c'est de me donner la rage de vouloir y arriver, parce qu'elle n'était pas du tout convaincue. Mais elle m'a donné beaucoup de force, parce que c'est une battante, c'est une femme qui est très forte et qui a toujours dû se battre. Tout ce qu'elle a obtenu, tout ce qu'elle a construit, elle est vraiment construite à la sueur de son front et de sa ténacité et de sa persévérance. Et je pense que je tiens ça d'elle.
On entre dans ce nouvel album, le cinquième, avec ce titre, Nar. Un mot peut-être pour le prononcer, non, je viens de le faire.
Non, Nar, c'est très bien.
Bien.
Ça veut dire feu en arabe.
Et ça raconte quoi, ce titre ?
Alors là, pour le coup, c'est vraiment la prise de position, la prise de contrôle. En fait, on reprend, parce que je suis en duo avec Amy Ereolo, et j'ai coproduit avec Anna Vassant et Lisa. Donc on reprend le contrôle de notre « on n'est pas victime ». Et on décide de ce qu'on veut faire. Et là, vraiment, je dis dans le texte que je suis une guerrière, je suis une balle. Enfin, vraiment, on n'est pas là pour rigoler, en fait. On est là pour dire que l'image, en fait, qu'on a de nous, soit en tant que femme, ou en tant que femme arabe, ou en tant que femme africaine, on veut déconstruire ça. On veut pas être celle qu'on attend de nous, d'être les exotiques, les belles, les sexy ou tout ce qu'on attend de nous. Mais voilà, on est badass. On écrit notre hymne, quoi, notre hymne badass. Voilà.
coaching, huh? Fuck out of me, can't be best to go for a coaching for my I'm a coaching. I'm there.
Nar, extrait de Mra, c'est le cinquième album signé Emel. Je vous ai senti bluffé, Chloé Delhomme.
Ah oui, tout à fait, c'est bien vénère et effectivement c'est un chant de badass.
Un titre inspiré par la chanteuse Mia, c'est ce que j'ai pu lire.
Oui, tout à fait. Moi j'ai eu plusieurs inspirations pour cet album. En fait, c'est très clairement complètement différent de ce que j'ai l'habitude. Enfin, est-ce que j'ai l'habitude de faire quelque chose finalement, parce que je change d'album en album. Là, en fait, je voulais m'amuser un peu. Et comme jusque-là, j'ai toujours chanté toute seule sur mes albums. À côté du fait que j'ai décidé de travailler qu'avec des femmes sur cet album, je me suis dit que j'avais envie de jouer un peu avec les codes. Et je me suis dit, c'est quoi la musique mainstream? Pourquoi ça marche? Donc je me suis fait une playlist comme ça avec Mia, avec Aya Nakamura, avec même Taylor Swift. Et j'ai essayé un peu de mettre un dénominateur commun. Et je me suis dit, peut-être je peux réussir à faire... un autre mainstream, quoi, différent, qui je sais pas du coup si c'est toujours mainstream, mais...
Un mainstream qui raconte quelque chose, mais même le mainstream raconte aussi des choses, il y a plein de titres.
Oui, il y a beaucoup de... Justement, en fait, j'ai essayé en tout cas de mettre ensemble toutes les choses que j'aime bien, mais déjà, moi j'adore le son, je suis vraiment très fan de son.
On l'entend, il y a une puissance formidable. Ouais.
Merci.
En concert, incroyable. Ça va donner.
Ah oui, ça j'ai bien hâte, j'ai vraiment vraiment hâte.
Des titres forts, des titres puissants qui prennent position sur des sujets violents comme ce « Mazel ». Emel, de quoi est-il question dans ce titre que vous chantez avec Camélia Jordana?
Alors, l'histoire de ce titre, c'est que il y a un soir sur Facebook, quelqu'un qui aime, enfin, je suis toujours très connectée avec les gens qui m'écoutent et qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et donc, elle m'a raconté un peu entre les lignes son histoire. Et en fait, elle a été sexuellement agressée quand elle était enfant. C'est une transe. Et j'ai été absolument bouleversée et doublement bouleversée parce qu'elle a choisi de se confier à moi à mi-mot. Et en fait, ce qui m'a encore plus bouleversée, en fait, c'est sa résilience, mais surtout, en fait, sa détermination à ne pas être une victime, à réécrire absolument et être maîtresse de son chemin, de sa destinée et de son futur. Et c'est exactement ce que j'ai voulu faire en commençant cet album, en fait. Et je me suis dit que je me devais de lui rendre un hommage, et aussi parce que presque toutes les chansons de cet album, en fait, ce sont des histoires réelles. Et l'idée, en fait, c'est de parler de ces violences visibles et invisibles, et de créer, en fait, une sorte de cercle vertueux de et par les femmes et de ramener quelque chose de positif à ces hommes et femmes, parce que finalement il y a des histoires d'hommes et femmes dans l'album.
Autre prise de parole sur un rythme rap, Ida. Et puis un peu plus loin sur l'album, il y a même une tentation reggaeton avec Lose My Mind.
قافله اوبالي يا ما شفت العلامات اللي بينت اللي لو ما رت اشوف البيبي حتى لو كان نقبالي ضغط على شرافي يا كل شيء مدفون لا تحكي على الماضي لان ما بيها تشوت لكن هذا النوز على بالي كنا مش لما بين لي انه ما شفت اللي شفته حتى لو الفيجن كان صالد
ضلينا plein de couleurs musicales sur cet album, donc on peut dire que tous les codes sont absolument cassés. Comment vous allez préparer les concerts?
Oh là là.
Vous allez vous mettre à danser, il va falloir y aller. Comment vous allez préparer ça?
Une
performance. Non, c'est simplement une lecture musicale dans le vocabulaire de Chloé Delhomme.
Ça me rassure beaucoup, en fait, de je me mets un peu moins la pression. Non, je pense qu'on va réussir à bien sortir, mais c'est vrai que là, pour le coup, j'ai, je crois, 7 ou 8 duos sur l'album. Oui. Et peut-être à Paris, on réussira de réunir quelques personnes, mais c'est vrai que on a commencé à faire déjà quelques chansons sur certains festivals en Australie et dernièrement. Et en fait, j'ai décidé de garder la voix des filles. Et je trouve en fait que c'est une belle manière en fait de leur rendre hommage. Et parce que les gens, en fait, ça les ambiance beaucoup. Et elles délivrent tellement chacune dans son style. Et du coup, je danse en fait pendant ces moments-là et je kiffe ce que j'ai fait un peu moins jusque-là pendant mes concerts. Enfin, je kiffe mes concerts, mais vraiment de danser et de...
Être une performeuse,
voilà.
Ça n'était pas encore arrivé. Vous allez vous produire en Tunisie. Comment vous êtes perçue aujourd'hui en Tunisie?
Oh là là.
Oui, ça ne va pas
je
encore.
Je vais me produire à Paris, oui.
D'accord. Oui, mais partout dans le monde aussi. Mais la Tunisie, oui. Toujours pas.
Ouais, non, là, surtout depuis l'été dernier, c'est de plus en plus compliqué, malheureusement. Après, je sais que il y a beaucoup de gens qui m'attendent et ça me fait un peu de la peine parce que, voilà, je vais partout, un peu partout sans aller là-bas, mais on sait jamais, j'espère.
Bah oui, Emel, c'est l'espoir.
Pas envie de dire trop de mauvaises choses.
Non, ça ira très bien comme ça. Emel, c'est l'espoir, on a bien compris. Et bien voilà, côté club, c'est fini. Fin de partie, c'est le moment des adieux. Chloé Delhomme, merci à vous.
Merci à vous.
Le nouveau roman, c'est Falaire, s'il est paru dans la collection Point Féminisme. Il y a l'album Sentiments Négatifs. Et vous serez le 27 avril à la Ménagerie de Verre à Paris pour le Falaire's Club de 15h à minuit. Programme poésie, politique, littérature et musique. Ça s'appelle une lecture musicale? Non, c'est une performance. Emel, merci beaucoup.
Merci à vous.
Mra, c'est le 5e album, il sortira le 19 avril prochain. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain...
Et un concert.
Demain, un hommage à Paul Naref avec Malik Judy et Emma Peters en live, à leur côté Alain Chamfort en état de grâce. Et j'ai oublié le concert d'Emel à Paris le...
Ce sera le 13 novembre et ce sera au 104 à Paris.
Côté club, c'est l'équipe du Soir Espoir. Demain, ben, en rayon pour vous, ce sera...
Je vais dérouler le fil de l'actualité musicale.
Eh bien, parfait. C'est ça. À demain. Alors, bonne soirée à tous. Ça va, Stéphane Le Guenec? On sera à l'heure? Eh bien, c'est parfait. Allez, à demain.
Côté, c'était vraiment des chouettes moments, quoi.
Oui.
Il y avait même de la musique.
Bye.
Bye.